Dans la suite de l'étude qui nous anime dans le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est Malachie, chapitre 1er, où nous sommes arrivés, s'il y a un titre que je peux donner à notre étude de ce matin, c'est « Être adorateur, être serviteur dans la nouvelle alliance ». Et si cela est une joie, si cela est un privilège pour nous, l'enfant de Dieu ne peut être né adorateur et serviteur, à la fois dans sa famille, et pour nous, dans l'Église, serviteur de l'Église, à savoir Christ, la tête glorifiée, et nous, ses membres, corps sur la terre, nous ne sommes serviteurs et adorateurs qu'en référence à Jésus-Christ. La nouvelle alliance est différente de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a été signée au mont Sinaï, nous, par grâce. Elle a été signée à Golgotha. Et cela est toute la différence. C'est donc en référence à ce Seigneur qui était mort et qui est ressuscité que nous pouvons être serviteur et adorateur du Dieu vivant et vrai en attendant le retour du Seigneur Jésus. Que l'on puisse dire de l'église de Glun, comme il a été dit de l'église de Thessalonique, on raconte de vous de quelle manière vous vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai en attendant le retour du Seigneur. Quelques rappels sur, pour ceux qui nous rejoignent, quelques rappels sur l'enseignement qui est apporté. Nous avons découvert qu'il y avait une similitude entre la période du peuple d'Israël au temps de Malachie, de Néhémie, puisque Malachie et Néhémie se sont sans doute côtoyés, et la nôtre, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue religieux. Nous avons également survolé, simplement lu, les différents dialogues, au nombre de 8, qui existent entre Dieu et son peuple. Un peuple qui, chaque fois, est en objection, en révolte, contre son Dieu. Et le premier dialogue où Dieu révèle son cœur pour le peuple est en réaction et dit « Mais en quoi, toi Éternel, nous as-tu aimés ?» Comme notre frère l'a dit, si le cœur n'y est plus, alors là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Alors la première question, suite à ce que nous avons entendu, où est notre trésor? Il est impossible de servir en même temps le monde avec Mammon et Dieu, le Dieu vivant et vrai. Et si le cœur est absent, alors, reprenons ce que Paul dit dans le fameux cantique de l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13, nous sommes une cymbale. Ça sonne creux, c'est vide. Dans la lecture qui sera nôtre, puisque le cœur n'y est plus, Dieu vient de dire au peuple, je vous aime, je vous ai choisi, je vous ai acquis. Vous êtes à moi, vous êtes mon peuple. Et le peuple méconnaît l'amour de Dieu pour lui. Nous allons donc, à partir de maintenant, voir un processus qui est lent, qui est insidieux, inoffensif au départ, mais qui est graduel, imperceptible, pour devenir un état, voire inconscient, du déclin du peuple. Et cela va se manifester par une manière de vivre, par une manière de pratiquer la parole de Dieu, par une manière pour nous, enfants de la nouvelle alliance, nés de nouveau, par un déclin, une méconnaissance de notre position en Jésus-Christ. Plusieurs exemples dans la parole de Dieu d'hommes qui ont décliné spirituellement dans leur vie sont rapportés. Je n'en citerai qu'un. Cela se trouve dans le livre des Juges. C'est l'histoire de Samson. On le connaît pour un homme fort, hein? Et il nous est dit dans Juges chapitre 16, Delila, son épouse, dit, après lui avoir rasé ses cheveux, hein, « Les Philistins sont sur toi !» Samson se réveilla et dit, « Oh, je m'en tirerai comme les autres fois, pas de souci, je vais me dégager de ces Philistins qui m'entourent. » Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quel déclin lorsque l'amour n'est plus présent. Et comme du temps du peuple d'Israël, pour nous aujourd'hui, lorsque Dieu voit l'Église en général sur ce monde, notre Dieu voit une Église dont l'amour se refroidit, une Église dont la foi est de plus en plus absente. Et notre Dieu souffre et pleure. Il appelle dans sa grâce à revenir à lui, à rester vigilant. Ne pensons pas que nous sommes différents du peuple d'Israël. Nous sommes sujets aux mêmes chutes, aux mêmes relâchements, aux mêmes négligences. Mais ce qui nous est rapporté, c'est pour notre instruction et pour nous avertir. Je voudrais lire avec vous, et je vous invite à ouvrir vos pages de la parole de Dieu dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et avant que je ne projette ce texte, je voudrais le lire avec vous. Malachie chapitre 1er, et nous lisons au verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? Offre-la donc à ton gouverneur. Celui-ci te recevra-t-il de manière convenable? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Je voudrais dans un premier temps, parce que ce texte me semble tellement riche d'enseignements que, si vous le permettez, il sera abordé au moins au travers de deux rencontres. Je voudrais souligner ici quelques mots que Dieu dit à son peuple et nous dit à nous par l'entremise de son porte-parole du prophète Malachie. Il est question de fils. Il est question de père. Un peu plus loin, comme nous l'avons lu, il est question de table. C'est-à-dire, il est question d'une relation familiale, d'une relation d'amour entre un père et son enfant. Il est question d'une communion qui est intime, d'autant que ce père est Dieu et que nous, pauvres humains, nous sommes par grâce devenus ses enfants. Le père est-il toujours honoré? Et puis, Malachie, de dire, il prend un autre exemple, serviteur et maître, un peu plus loin, de seigneur, de gouverneur. Il est donc question d'être au service, d'être des personnes qui, avec joie, servent le Dieu vivant et vrai, servent l'Église avec respect, avec crainte, c'est-à-dire avec l'honneur qui lui est dû, c'est-à-dire avec la peur de devoir lui déplaire, parce qu'il nous a tant aimés. S'il y a cette relation filiale, s'il y a cet honneur qui est dû entre l'enfant de Dieu, serviteur, et le souverain des cieux et de la terre, nous avons peur de lui déplaire. Telle est l'attitude qui doit nous animer. Mais à qui s'adressent ces paroles? À vous, les prêtres, à vous, les sacrificateurs. Les prêtres de l'ancienne alliance, constitués à la fois des Lévites qui avaient pour tâche de transporter, de préparer les sacrifices, et des souverains sacrificateurs issus de la famille d'Aaron, cela fait partie d'un autre sujet si on voulait le développer. Il est question donc d'être l'intermédiaire entre le peuple et le Dieu trois fois saint. Il est question de louer, il est question d'adorer, d'apporter des sacrifices pour le peuple sanglant, à la fois pour les péchés du peuple, mais aussi dans l'ancienne alliance, des péchés des sacrificateurs, parce qu'ils étaient des hommes pécheurs, trébuchants. Ils avaient besoin aussi d'être couverts par le sang précieux. Et quand le souverain sacrificateur, qui entrait une fois l'an dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu, se trouvait l'arche avec son couvercle propitiatoire sur lequel on venait déposer le sang d'un agneau, d'une bête, pour que le péché soit couvert, le jour des expiations, c'est-à-dire le jour où Dieu pardonnait. Quand le souverain sacrificateur sortait, c'était pour bénir le peuple, pour apporter la grâce de la part de Dieu. Ainsi donc, le souverain sacrificateur avait pour mission, d'une part, de parler à Dieu des hommes et de parler aux hommes de Dieu. Tel est le double sens. Qu'apportait-il? Vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et vous dites, mais en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et l'Éternel de répondre, mais vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En quoi avons-nous délaissé ce qui est sacré, ce qui est saint? Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quoi? Des enfants disent à leur père que la communion qu'ils doivent avoir avec lui, l'intimité, est méprisable. Mais quel déclin, bien-aimé. Le cœur n'y est plus. Quand on parle de la table, ce n'est pas le meuble en bois qui est là. Hein. C'est une table spirituelle qui nous parle de la communion, d'une relation, d'une intimité avec mon Père, qui est le Dieu des cieux. Et nous poursuivons. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Quoi, tu prends Dieu pour une poubelle? Au lieu qu'il... Mais Dieu attend les prémices. Et toi, tu viens offrir ce que toi, tu n'as pas besoin. Où est ton cœur? Dieu est-il en premier servi? Quand vous en offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Va donc offrir cette bête à ton gouverneur. Et tu verras comment il va te recevoir. Et moi, tu veux que je t'accueille? Et l'Éternel, dans sa grâce, donne le remède à cette situation, qui n'est autre que le déclin d'un cœur qui n'aime pas son Dieu. Le remède, nous le savons pour nous. Confesser, se repentir, revenir à lui, à vous les sacrificateurs, dit l'Éternel. Et nous relisons le texte, priez Dieu maintenant, pas tantôt, maintenant. Prenez conscience de votre situation, de votre position catastrophique, et priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous, pour qu'il vous fasse grâce, qu'il vous accorde sa miséricorde. Nous avons affaire à un Dieu qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. Priez ce Dieu. C'est de vous, sacrificateur, que cela vient. Votre Dieu vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Et dès lors, si on prenait la peine de relire dans le silence de nos cœurs cet avertissement que Dieu donne par l'entremise de Malachie à son peuple, le Saint-Esprit viendrait sonder notre cœur et mettre en lumière ce qui n'est pas juste devant notre Dieu. Y a-t-il, bien-aimé, quelque chose qui nous anime lorsque nous venons dans un rassemblement d'église? Quand nous venons à nos rassemblements, où est notre cœur? Où est le trésor? Avec quelle attitude de cœur sommes-nous présents? Ai-je rempli mes pensées de Christ? Ai-je amené mes pensées à l'obéissance de sa parole? Ai-je été nourri de ses bienfaits sans nombre durant la semaine, afin de le louer, de lui rendre grâce, de l'adorer et lui apporter, non pas du réchauffé, mais quelque chose qui est rendu vivant en nous par sa parole et son esprit? Et même si ce sont des choses anciennes, parce que ça fait 20 fois, 100 fois que je les lis, est-ce qu'elles ont été reméditées, est-ce qu'elles ont été revécues dans mon cœur, au point que cela devient nouveau et frais pour mon Seigneur? Ou est-ce que c'est de l'hypocrisie? Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que mon cœur s'est nourri pendant la semaine des vérités profondes de ce que Dieu est pour moi? Pas pour mon plaisir, mais pour le plaisir de mon Père et pour le plaisir de l'Église. Alors, bien-aimés, quand nous venons à nos rassemblements, s'il n'y a pas de différence entre la face-à-face avec Dieu que je suis invité à avoir dans l'intimité de ma chambre, dans le secret de ma chambre, s'il n'y a pas de différence entre l'intimité dans ma chambre, le face-à-face avec Dieu et l'Église, alors, désolé, je vous dis, restez chez vous. Mais ce n'est pas selon le plan de Dieu. Dieu est mort pour rassembler un peuple. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu que nous abandonnons le rassemblement nous-mêmes. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes habités par le Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans un même esprit pour former un même corps. Où jaillit l'adoration et le service de notre Dieu? L'Église est donc le rassemblement de tous ceux qui ont entendu l'appel de Dieu et qui ont répondu individuellement, personnellement. Ce n'est pas un appel qui est adressé à la collectivité, mais l'appel de Christ est sur la vie de chacun. Et si nous avons répondu à cet appel individuellement, c'est pour marcher ensemble, dans la communion, dans la joie, dans la paix. Sinon, laisse là ton offrande. L'Église fait-elle la différence? Est-ce que je suis édifié lorsque je viens à l'Église? Nous ne pouvons comprendre l'amour de Dieu qu'en le partageant entre nous. Lisez les épîtres de Paul et vous verrez, afin de connaître l'amour de Christ avec tous les saints. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de chacun des membres de l'Église pour sonder l'amour de Christ et pour découvrir toute la richesse de son cœur pour nous. L'Église fait-elle la différence? Les sacrificateurs de l'ancienne alliance avaient un cœur de pierre, d'où le déclin. Mais Dieu, dans sa grâce, a promis quelque chose. J'écrirai ma loi au-dedans d'eux, sur des cœurs de chair. Si nous sommes habités par le Saint-Esprit, cet Esprit nous transforme, ramollit notre cœur pour que le cœur de Christ soit le mien. Et ainsi devenir sacrificateur de la nouvelle alliance. Ce matin, comme je l'ai dit, je voudrais simplement aborder un aspect de ce texte que nous avons lu. Parce que vous voyez, c'est un enseignement qui est riche. Parce que la sacrificature comprend plusieurs aspects. Bien sûr, des sacrificateurs et un chef. Un chef sacrificateur. Et si on donne le nom de ce chef dans l'Église, il a été donné par Dieu. C'est Jésus-Christ. Il est le chef des sacrificateurs, ou si on lit la parole de Dieu, il est le grand souverain sacrificateur. Il est le chef. Et puis, il y a des sacrifices. Il y a un autel, des autels pour mettre le sacrifice. Et cela fait partie, me semble-t-il, d'un autre volet qui se rattache à la responsabilité du sacrificateur. De sorte que la notion de sacrifice et d'autel des sacrifices sera abordée dans un autre volet. L'homme né, comme je l'ai dit, l'homme né de Dieu, qui est enfant de Dieu, n'est adorateur et serviteur de Dieu qu'en référence à Jésus-Christ. On peut donc librement s'approcher de Christ et par lui, par Jésus-Christ, avoir un accès libre au trône de la grâce, au Père, sans autre intermédiaire que Jésus-Christ lui-même. Juste pour voir l'ancienne alliance, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, quand Dieu a promis d'habiter au milieu de son peuple, dans le désert, il lui a dit, voilà, vous allez me faire, il dit à Moïse, vous allez me faire une tente, un tabernacle, avec les enfants d'Israël, répartis par tribu, par famille, autour de ce tabernacle. Et c'est là que le peuple venait avec des sacrifices et le donnait à des lévites qui les officiaient sur l'autel du sacrifice sanglant. Et puis il y avait d'autres instruments, voilà. On voit ici ces différents instruments qui étaient là, meubles. Il y avait l'autel d'airain qui nous parle de la croix. Il y avait la cuve d'airain juste avant d'entrer dans la tente. Il y avait cette cuve d'airain qui nous parle de la sanctification où les sacrificateurs devaient s'asperger, se laver pour qu'ils soient saints. Pour ce temps-là, c'était une attitude physique, mais pour nous, c'est une circoncision de cœur qui nous est demandée. D'un côté, c'est l'homme qui fait, et puis pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui fait par son esprit. Et puis quand on rentre dans le tabernacle, voilà, on y est, il y avait là deux parties, un lieu qui s'appelait le lieu saint, avec trois ustensiles, la table de pain de proposition, il y avait l'autel des parfums, qui sont pour nous les prières justes des saints. Et puis il y avait un chandelier qui éclairait. Et puis quand on allait au-delà de ce voile, hein, oui, je suis en train de marquer ici alors que vous ne me voyez pas, voilà le voile à l'intérieur bleu, là se trouvait la présence très sainte de Dieu, où le souverain sacrificateur rentrait avec beaucoup de crainte, selon ce que Dieu avait dit dans le Lévitique, dis à Aaron, n'approche pas trop souvent de moi, afin que tu ne meures. Mais nous, bien-aimés, l'invitation est faite, approchez avec foi, avec assurance. Pourquoi? Parce que le prix était payé, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été déchiré par Dieu. Depuis le haut jusqu'en bas et par le centre, de sorte que Christ a ouvert l'accès des cieux par le voile. Et en parlant de cela, il parlait de sa chair qui était donnée en sacrifice sanglant à Golgotha. Les sujets qui seront abordés prochainement, si on parle d'autel, ma vie déposée sur l'autel du renoncement à moi, pour suivre Christ en disciple, et offrir des sacrifices spirituels placés sur l'autel de ma vie, afin qu'il y ait un parfum agréable qui monte vers le Père, vers le Seigneur. Ce sera pour la prochaine fois. Sacrificateur de la nouvelle alliance. Qui sont-ils dans l'Église? Du temps de Malachie, il s'agissait des responsables. Nous dirions aujourd'hui des anciens, des pasteurs, ceux qui ont la responsabilité de la vie spirituelle de l'Église locale. Et en entendant cela, je me dis, oh, je ne me sens pas concerné. Je ne suis ni pasteur, ni ancien, je n'ai aucune responsabilité, même pas à l'école du dimanche, hein, même pas responsable de la chorale, non, moi, je suis spectateur, c'est tout. De sorte que je ne vois pas pourquoi Malachie devrait m'intéresser. D'autant qu'il n'y a plus d'autel, il n'y a plus de sang à répandre, il y a bien une table, mais... Le meuble en bois, ce n'est pas de cela que Dieu parle. Alors, je me pose la question, mais qui sont ces sacrificateurs? Est-ce qu'ils sont uniquement des anciens, des pasteurs, des responsables, ceux qui exercent un quelconque ministère, service dans l'Église locale? Et nous lisons ce que Jésus lui-même dit des enfants sauvés par grâce. Jésus-Christ qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, il a fait de toi, de moi, de chacun. Il a fait de nous. C'est pas toi, c'est pas moi qui me suis autoproclamé sacrificateur. C'est Jésus lui-même qui a fait de moi des sacrificateurs pour son Dieu et son Père. Vous allez me dire, ça c'est pour le temps présent, c'est pas pour le futur, c'est pour le temps présent. Je suis, si tu es sauvé, si tu es habité par le Saint-Esprit, tu es sacrificateur pour Dieu, le Père, mon Père en Jésus-Christ. Pour aujourd'hui et pour toute l'éternité. Lisons Apocalypse chapitre 5, où l'apôtre Jean décrit ce qu'il voit dans le ciel, alors que l'Église est enlevée dans le ciel. Voilà ce qui a la louange, le cantique qui est entonné, alors que l'Église est au milieu de l'agneau, est autour de l'agneau. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. C'est pour toute l'éternité, bien-aimé, que nous sommes sacrificateurs. Christ a fait, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si je suis né de nouveau, j'appartiens à la famille de Dieu et Jésus fait de moi des sacrificateurs. Quel que soit mon âge, un bébé dans la foi a le même accès que moi au trône de la grâce. C'est pas moi, père ou papy, qui prend mon fils ou mes enfants et mes petits fils ou mes petites filles pour leur dire, viens, je vais te mettre en contact avec le trône de la grâce, avec Dieu. Non! Il est sacrificateur, même s'il est jeune dans la foi. Il est sacrificateur. Il peut dès lors prier, louer, adorer, chanter, entendre Dieu. Mais quel privilège qui est adressé à tous les croyants. Et cela n'a rien à voir avec un ministère, un don de grâce de Dieu. Bien-aimé, être sacrificateur n'a rien à voir avec la fonction de pasteur, le rôle de pasteur, ou le rôle d'ancien, la charge d'ancien. Si tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin d'un don particulier. D'office, Jésus fait de toi un sacrificateur. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Sacrificateur d'une nouvelle alliance qui est meilleure que l'ancienne. L'ancienne était bonne, mais là où nous sommes, c'est meilleur. Et je voudrais, bien aimé, souligner quelques aspects de cette alliance qui est meilleure. Il faudrait lire l'Épître aux Hébreux. J'ai sélectionné quelques versets dans ce merveilleux livre qui est adressé à des chrétiens de nationalité juive et dont certains voulaient retourner à l'ancienne alliance. Et le Saint-Esprit attire l'attention de ces juifs convertis. Nous n'avons plus affaire à une classe, à une tribu, à une famille, à un peuple qui a le privilège d'avoir accès au trône de la grâce par un intermédiaire humain. Nous, étrangers aux alliances, aux promesses faites par Dieu au peuple d'Israël, nous avons accès aux mêmes promesses. Et Dieu n'a fait que des nations et que d'Israël, sauvés par grâce, pour ceux qui sont nés de nouveau, un seul peuple qu'on appelle Église. Et si le souverain sacrificateur entrait une fois l'an, et nous lisons Hébreux chapitre 9, verset 12, et il, Jésus-Christ, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce n'est pas pour le temps que nous vivons, c'est pour toujours. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ni de Christ. Nous avons été rachetés pour l'éternité. Dès lors, le seul médiateur n'est plus un homme qui est mortel comme dans l'ancienne alliance, mais l'homme Christ Jésus qui a été mort pour nous, pour nos péchés, qui est ressuscité, qui est vivant, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui est donc entré dans le ciel même, avec non pas du sang qui aurait été d'une bête égorgée, mais il est entré avec son propre sang dans le sanctuaire divin et par la foi. Nous avons accès à ce sanctuaire divin en attendant de le fouler dans la réalité des choses quand Christ viendra chercher son Église. La grâce d'être sacrificateur et de recevoir un don est donnée par la nouvelle naissance. Mais être sacrificateur n'a pas besoin d'un don particulier. Je suis sacrificateur. Hébreux chapitre 8. Il, Jésus, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Je vous encourage à lire l'Épître aux Hébreux. Il y a deux mots qui sont rappelés en permanence. Ces mots, c'est « alors » et « maintenant ». Alors, ça parle de l'ancienne alliance, maintenant de la nouvelle. Alors, Dieu a parlé par des prophètes. Maintenant, il parle en fils. Alors, Dieu s'est servi du ministère des hommes, sujet aux faiblesses, temporelles, mortelles, pécheurs, parce qu'ils devaient offrir des sacrifices pour eux-mêmes, puis pour le peuple, des sacrifices qui devaient être renouvelés. Et le souverain sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu très saint, mettre le sang sur le propitiatoire. Maintenant, il se sert du ministère béni de son Fils bien-aimé. Il est saint, il est innocent, il était sans tache, il était séparé des pécheurs, mais par amour pour nous, il s'est sacrifié. Il a donné sa vie et il est maintenant élevé dans le ciel. Il est plus haut que les cieux. Alors, les promesses de Dieu étaient applicables à seulement un peuple. Maintenant, il s'adresse au monde entier. Alors, les souverains sacrificateurs étaient choisis parmi le peuple. Tandis que maintenant, Christ, comme nous lisons, a obtenu cette médiation d'une alliance excellente, meilleure que l'ancienne alliance. Il a un sacerdoce meilleur. Il est le souverain sacrificateur, que je dis, le grand souverain sacrificateur. Il est le chef de tous les sacrificateurs que nous sommes. Juif, né de nouveau, converti à Christ, vivent dans la nouvelle alliance avec le même contrat que moi, que ceux qui sont nés de nouveau. Alors que nous étions des étrangers, Christ est mort pour rassembler et enlever ce mur de séparation. L'ancienne alliance était bonne, mais la nouvelle alliance est excellente. Quand certains dimanches, nous participons au repas du Seigneur, où il nous invite à faire mémoire de son œuvre à la croix du Calvaire, et rappelez les promesses de son prochain retour. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Nous répétons cela dimanche après dimanche. Et quand nous buvons à la coupe, le Seigneur de dire à chacun de nous, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Est-ce que nous sommes conscients de cela lorsque nous partageons les symboles que le Seigneur nous a laissés? Le pain, expression de son corps qui a été donné pour nous, mais aussi avant de le fractionner, expression de l'Église, corps universel. Et la coupe, Seigneur, je suis sacrificateur parce que c'est toi qui m'as fait sacrificateur de cette nouvelle alliance. En conclusion, bien-aimés, prenons conscience que Christ a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, pour son Dieu et Père, qu'il nous a introduits dans une alliance qui est éternelle et infiniment supérieure, excellente. Ce privilège haut élevé de la nouvelle alliance possède aussi des responsabilités que l'on découvrira plus tard dans l'autel et les sacrifices. pour Malachie des bêtes mortes, enfin des bêtes malades, des bêtes infirmes, aveugles, une tape méprisable. Nous découvrirons pour nous, peuple de la Nouvelle Alliance, ce que signifient ces expressions. Alors, prenons conscience de ce que Christ nous a donné comme privilège, au risque de mépriser et de profaner le nom de notre grand Dieu Sauveur. En préparant cette méditation, il y a un chant qui s'est imposé à mes pensées, et grâce à Dieu, je l'ai retrouvé sur Internet. Mais je n'ai pas su le rapatrier parce que c'était en PDF, c'était... voilà. Je vous le lis, bien que j'ai noté, je pense. Voilà, j'ai tapé le chant. C'est un chant que ma grand-mère me chantait alors que j'étais bébé, au berceau. Voilà les paroles qui ont bercé mon enfance et qui sont gravées dans mon cœur. Nous lisons ce texte. Nous, Église, nous aimons à prendre les places où nous met l'œuvre de Jésus. Et nous pénétrons sur ces traces jusqu'au ciel où toi, Père, tu l'as reçu. C'est là, c'est dans ton sanctuaire, constamment ouvert à la foi, que la louange au Notre Père, et d'autres versions disent que l'adoration au Notre Père, par Jésus-Christ, s'élève à toi. Et en le chantonnant à la maison, j'ai retrouvé quelques paroles. Voilà, je vous les donne. Ce chant s'intitule « Dieu d'amour, Dieu de toute grâce, nous aimons à nous réunir. » Est-ce la joie d'être seul dans ma chambre ou la joie d'être réuni en assemblée où Christ a promis sa présence? « Ô Seigneur, dit une strophe, ô Seigneur, pénètre nos âmes de ton ineffable bonté. Fais-nous sentir les vives flammes de ton immense charité. Qu'ainsi la louange déborde de nos cœurs par le Saint-Esprit pour chanter ta miséricorde et ton amour en Jésus-Christ. Bien-aimés, mesurons le prix que Christ a mis pour faire de toi, de moi, de chacun de nous, des sacrificateurs, pour louer, adorer.